Avot, pchi. Il a fait. La fête des filles, donc après la fête des filles, et on fait aussi des petits fours et tout machin, c'est aussi comme par exemple
trop.
Il a fait. Super. Et donc après toutes ces fêtes-là, festivités, eh bien on se retrouve pour notre étude du livre de Bereshit. Et donc nous sommes arrivés, si je ne m'abuse, on avait fait, donc on avait commencé donc le déluge, et alors voilà, je vais vous dire, je pense qu'on était arrivé au chapitre 8. On avait dit que l'eau était présente sur la terre, mais avec Hamishim Yom, 150 jours. Et donc, maintenant, nous allons parler donc de la sortie de l'arche, l'après-déluge. D'accord ? Alors, allons-y. Donc, nous sommes dans le livre de Bereshit, Perek Chet, Pasuk Aleph. OK ? Chapitre 8, verset 1. Vaïskor Elohim et Noach, ve'et kol achaya, ve'et kol abehema asherito bateva, ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים. Dieu se rappelle de Noach, ça veut dire quoi? מה זה? ויזכור אלוהים את נוח. Quand il avait oublié? Non, il se rappelle de la promesse qu'il lui a faite. Il l'a promis de le sauver du déluge, donc il faut bien que le déluge s'arrête à un moment donné, pour que la promesse se réalise. ואת כל החיה אשר איתו בתיבה. Pourquoi il a demandé de sauver les animaux? C'est pour qu'il continue à pouvoir revivre. Vayashoku amaim, vayisachru mayenot teom ve'arubot ha'shamaim, vayikale ha'gashem min ha'shamaim. On a dit, on l'avait dit la dernière fois, c'était il y a longtemps, que tous les calculs sont chamboulés dans le déluge. C'est-à-dire que dès qu'on nous donne une date, on ne part pas du même point de référence. Dès qu'on nous dit que la pluie elle a duré 40 jours, après on nous dit que c'était 150 jours d'eau. Et là, tout d'un coup, on nous redit que la pluie vient de s'arrêter alors qu'on nous a déjà parlé. Tout ça est fait. Donc ça nous amène à 340 jours déjà. OK? Vatanach ateva bachodesh ha-shevi'i b'shiv'a asar yom lachodesh al hare Ararat. Donc l'arche se pose sur les monts Ararat qui se trouvent en Turquie. C'est-à-dire va'amayim ayu alokh vechasor ad ba'asiri, ça dépend de quand. Tu commences à compter. Et là, on te dit, Ve'av, She'u Asiri le Macheshvan, She'itri la Geshem. On a commencé. C'est le jour où, enfin, c'est le moment où a commencé la pluie. Donc, on voit ici qu'il y a tout un chamboulement. Mais, ça y est, ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc, combien de temps, bien, y a-t-il eu lieu le déluge? Combien de temps? A priori.
340 jours.
Non. 340 jours, donc, allez, un an. Pratiquement un an. On va voir si c'est aussi évident que cela. Oui.
À ce moment-là, on savait ce que c'était un Kodesh et que c'était
bien
une
sûr.
Année.
Bien sûr. On avait vu dans le quatrième jour de la création que Dieu avait mis en place Amor Agadol et Amor Akaton, les Shamesh, les Yamim et les Shaminim. Donc on sait que une journée, c'est quand le soleil se lève sur le groupe, ça on sait. Le Chodesh, on voit bien la lune. OK? Et l'année, c'est la révolution. Nous, on connaît au niveau astronomique, mais eux, ils comprennent aussi qu'il y a un changement des saisons. Donc, ils savent aussi repérer l'année, sans aucun problème. D'accord? Je te rappelle qu'il y a déjà à cette époque-là, des moyens de calcul pour calculer le diamètre de la Terre, pour calculer tout en fonction de l'ombre. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très intelligents au niveau de leur découverte scientifique. Mais tout n'est pas forcément écrit dans la Torah. Là, en l'occurrence, c'est marqué. Là, en l'occurrence, c'est marqué. Mais toutes les découvertes scientifiques ne sont pas vraiment marquées dans la Torah. C'est-à-dire donc, « Vaim miketz arbaim yom, vaivtach noach et chalon ateva, cher Asa. » Après 40 jours, Noach a ouvert la fenêtre. Mais attendez, je ne comprends pas, 40 jours, c'est la pluie, mais il y avait encore plein d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Vaïm Miketz Arbaïm Yom, alors c'est quoi c'est Arbaïm Yom? Nous dit Rashi, Mishéniru Rashi Arim. Depuis qu'on a vu la pointe des arbres. Donc, ça nous amène à Mamash, presque un an, peut-être même un peu plus. Et là, il ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et qu'est-ce qui se passe? Va yishalach et ha'orev. Il envoie non, le corbeau d'abord. Il envoie le corbeau. Va yetsé yatso vashov adiavoshet amay me'al ha'aretz. Moi, je te dis que lorsqu'il a envoyé le corbeau, c'est parce qu'il ne voulait pas sortir de la Teva. Et parce que le corbeau, alors oui, ça c'est une info que j'ai. Je sais ce que dit le corbeau.
Au renard ?
Alors, il parle beaucoup au renard. C'est vrai. Car mettre corbeau dans un arbre perché tenait dans son bec un fromage, bien évidemment. Mais le corbeau, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le corbeau ?
Il y a encore de l'eau, sortez pas.
Il y a encore de l'eau, sortez pas. Tu parles corbeau ? Non, le corbeau, il dit quelque chose de très simple. Il dit, qui m'amènera mon repas ? Oui, c'est ça qu'il dit le corbeau. Ben, du moins, d'après David Abeler dans le Perek Shira. Perek Shira, c'est quoi ? C'est un petit texte, d'après le Midrash de Tehilim, c'est le bonus de Ruach HaKodesh, de névoie, de prophétie que David reçoit, après avoir écrit Tehilim. Il reçoit un bonus, et avec ce bonus, il écrit Perek Shira. C'est la chanson de toute la création, dans laquelle il met en avant tous les éléments de la création, pas que les animaux, mais les animaux également, et chacun va donner sa louange à Dieu. C'est-à-dire, chacun va dire ce qu'il a à dire. Ok ? Et à Orev, son truc qu'il a à dire, c'est « Qui va me donner à manger ?» En d'autres termes, à Orev, il montre le corbeau, il montre une dépendance. Il n'arrive pas à gérer par lui-même. Si tous les jours, tu es là à dire « Alors, qui me donne à manger aujourd'hui ?» On connaît, il y a des enfants comme ça qui a passé les 35 ans, ils vont tous les matins, tous les midis, tous les soirs manger chez maman. Alors ça peut être parce que c'est une très bonne cuisinière, ou alors c'est parce qu'il y a une peur de prendre son indépendance, il y a une peur de vouloir couper le cordon, on est bien à la maison, on a nos repères. Mais imaginez-vous noir, c'est dangereux dehors. Ça fait un an qu'il est dans la Teva, ça se passe bien. Pourquoi tu veux qu'il sorte ? Et donc, le Orev représente cette première étape, la peur de couper le cordon. Et donc, d'ailleurs, ça ne marche pas. Ah, le fait qu'il envoie cette fois un autre animal montre qu'il veut changer complètement de vision. Vayona, qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, avant ce qu'elle va faire, dans le même Perek Shira, on a aussi la Yona qui parle, la colombe. Eh oui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette colombe ? La colombe, elle dit, « Yiu mezonotai merorim kazait beyadecha ve'al yu metukim kidvash al yede basar vadam. » C'est-à-dire, la Yona, elle dit, « Je préfère que ma parnassa, elle soit dure, amère, mais elle vienne de toi, plutôt qu'elle soit très douce, mais qu'elle vienne des hommes. » En d'autres termes, je ne veux pas être dépendant d'un être humain qui va me donner à manger. Je préfère que j'ai un travail à fournir, mais que ça vienne de toi. Donc ici, la Yona, c'est directement une dimension d'indépendance. C'est une dimension où je ne suis plus celui qui reçoit, mais je vais chercher. D'accord ? Donc là, Noach montre qu'il commence à se préparer à sortir. Donc ça a mis une semaine pour le corbeau, une semaine pour la Yona. Seulement, Vaishalach et Ayona meito, lirot, hakalu amaim me alpene adama. Donc c'est ça le but. Est-ce que l'eau a disparu ? Alors que lorsqu'il envoie le Orev, il ne lui a pas donné de mission. Ça montre bien qu'il n'a pas du tout envie de sortir à cette époque-là. Mais Ayona, ouais. Velo matza Ayona manoar. Maintenant, vous savez que ça vient de là, la chanson. Alors, nous, on connaît très bien Aïe Aïe Aïe. Ça, c'est les paroles que tout le monde connaît. Mais c'est quoi le début ? Lomatsa Manoach. Lomatsa Yona Manoach. Aïe Aïe Aïe. Lomatsa Yona Manoach. C'est là. D'accord ? Donc, l'homme a ça, yonam a noach, aïe 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 aïe, le kaf ragla. Vatachov elav, el a teva, ki maim al pene kol haaretz. Vaishlach yado, vaikachea, vayave, ota, elav, el a teva. C'est-à-dire que pourquoi elle revient ? parce qu'elle n'arrive pas encore. C'est-à-dire qu'il y a ici ce processus qui est en fait le processus de l'être humain. Au début, on essaye de sortir de chez papa et maman, mais on revient. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait un jeune garçon de 18 ans qui fait l'Alia. Toute ressemblance avec des cas que vous connaîtriez dans votre entourage serait purement fortuit, involontaire, bien évidemment. Alors, je vais prendre mon exemple. Tu fais l'Alia, tu coupes le cordon. Ah, t'es plus chez papa et maman, c'est plus eux qui vont te faire ta lessive tous les jours, c'est plus eux qui te font à manger, c'est plus eux qui te ruent, t'es obligé de te débrouiller. Top, il y a fait. Mais mec, t'arrives à la yeshiva, il y a une énorme machine et tu viens, tu payes 5 shekels pour te faire ton énorme machine. À toi de savoir quand tu dois le faire, quand tu dois pas le faire. Et au début, tu te dis, je mélange les couleurs, je mélange pas les couleurs. Et tout d'un coup, tes titis deviennent du rose et tout ça. Ben ça a l'air, ok, ça marche. Seulement, est-ce que tu as véritablement ton indépendance? Ah, pas vraiment. La carte qui fait marcher toute ta vie, elle est quand même pas à ton nom. C'est quand même la carte de papa, même si c'est ton nom qui est marqué dessus. Qui c'est qui rentre du flouze dans les épinards? Ben, c'est encore papa et maman. Et quand il y a un problème, eh ben, je vais faire un petit tour en France, et nana, et nana. Et quand tu vas en France, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas pourquoi tu es venu avec une valise vide, elle redevient pleine. Et quand papa et maman, ils arrivent en Israël,
ils viennent pleins.
Ils viennent non seulement pleins, mais en plus, ils t'emmènent au super. Ouais. Oui, parce que quand tu es jeune et que tu es à la yeshiva, tu ne sais pas ce que c'est avoir un caddie plein. Ça n'existe pas. Donc, t'es pas vraiment... Mais t'es un peu indépendant, mais pas vraiment. Mais pas... Et puis, à un moment donné, un jour, ça y est, tu n'utilises plus la carte de papa et maman. À un moment donné, tu prends ton indépendance. Donc, à Orev, je ne suis pas prêt. À Yona, j'ai envie d'être prêt, mais ça va prendre du temps. D'accord? Donc, là, il n'a pas trouvé de repos. Vayachel od shiva yamim acherim. Vayosef sera shalach et ayona minateva. Après 7 jours, il a renvoyé la yona. Vatavo ela vayona let ere veine alezait taraf befia. Vayeda noach ki kalu amaim meala aretz. Donc elle vient avec son fameux rameau d'olivier. Qu'est-ce que ça symbolise, la branche d'olivier? Là? La paix, ça c'est aujourd'hui. Zanachon. Mais ça n'a aucune source. La source de base de, du rameau d'olivier, c'est la Géoula. Alors, tu as raison que par extrapolation, oui, la Géoula, elle va nous amener au final la paix. Nachon. Mais à la base, dans le livre de Zecharia Hanavi, le rameau d'olivier fait partie de la névoie que Dieu envoie à Zecharia pour annoncer la Géoula.
La
délivrance. Et là, en l'occurrence, c'est la délivrance pour Noar de pouvoir sortir de l'arche. Donc, il voit la Yona ramener son rameau d'olivier. Mais elle est quand même revenue. Donc, c'est la preuve qu'elle ne peut pas se débrouiller encore par elle-même. Donc, eh ben, on dit « Vayachel od shiva yamim acherim, vayishalach et ayona, velo yasfa shuv elav od. » Elle n'a plus besoin de rentrer.
Elle
n'a plus besoin de revenir à l'arche. Ça y est. Donc, c'est le siman où on peut partir. Ça y est, on a pris son envol, comme on dit.
Vaï be'echad ve'shesh me'od shana, barishon be'echad la chodesh, charvu amaï me'al haaretz, vayasar noach et mirse ateva, vayar ve'ine charvu pene ha'adama.
Noach ouvre la teva, et imaginez-vous le paysage. Imaginez-vous deux secondes le paysage. Paysage de destruction, de désolation. Désolation. Il n'y a qu'à voir des images quand il y a des inondations de quelque part et qu'après l'eau s'en va. Alors, il n'y avait certainement pas l'industrialisation qu'il y a aujourd'hui. Donc le paysage était déjà à la base moins construit qu'aujourd'hui. Mais il était construit. Il ne faut pas croire qu'il n'y avait rien. Donc il voit ici un paysage de désolation. C'est terrible de sortir de la Teva. Et là, je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que les sentiments de Noir sont terriblement confus. Pourquoi j'ai survécu? Pourquoi moi? Pourquoi ils ont tous mort? J'ai compris, mais bon, quand même, c'est trop dur.
Les géants qui avaient survécu, non?
Alors, nous, on étudie ici la Torah.
D'accord, ça c'est les commentaires.
Et évidemment, voilà, dans le Midrash, il y a plein de choses. Mais Og, Melech HaBashan, on ne sait pas s'il a survécu ou pas, pour l'instant, on ne connaît pas. Ok? Mais même s'il a survécu, ça ne veut pas dire qu'il est là au moment où il ouvre la porte. Donc, Bachodesh Hasheni, Beshiva Ve'etzrim Yom Lachodesh, Yavsha à Aretz. Donc c'est quand? Bachodesh à Sheni, le deuxième mois, Beshiva Vesrim Yom Lachodesh, le 27e du mois. Donc c'est quand? Alors, oui, mais c'est quand là en l'occurrence? Eh bien là, on va nous dire, c'est Becheshvan. Le 27 Cheshvan. Nachon. C'est d'ailleurs le 27 Cheshvan, aujourd'hui, un yom de une fête. Pas une fête juive, mais c'est la fête des Bnei Noach. C'est le jour de fête des Bnei Noach. Puisque c'est le jour où.
Le jour de fête, c'est pas un nom. Comment ils
appellent? Non, Yom, c'est Yom Bnei Noach. Parce que c'est le jour où Noach va recevoir les Sheva Mitzvot Bnei Noach. D'accord? Ok. Yavsha Aretz.
Qu'est-ce qu'ils font les Bnei Noach? Ils font une bouffe? Ils font quoi? Ah,
ils font, tu as raison. Ils font
Mishté.
Il y a un office. Il y a une Seouda Todaya. Comme nous, on fait un style de Pourim. Pas, il n'y a pas de déguisement, mais je veux dire, il y a Mishté, Simcha, Edfila.
Une fila.
Ben oui, il y a une fila, puisqu'il y a maintenant un sidour pour les Bnei Noach. Il y a un
des
sidour.
Fils, non hein
des
fils,
non
des fils.
Il
n'y
a pas des défilés.
Ah, des défilés. Ah non, ça, ce que tu dis, c'est à Soukhot. À Soukhot, il y a une parade de Kol HaAmim. Mais ce n'est pas forcément des Bnei Noach. C'est, il y a une parade de plein de gens qui viennent de plein de pays différents. À Chol HaMoed Soukhot.
Après Soukhot.
Après Soukhot?
Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être
15
jours. Il y a eu un défilé comme ça
des Éthiopiens, des... Ah non, c'est la chose. C'est autre chose, là, tu parles de la fête du Sigd.
Oui.
Ça, c'est la fête des Éthiopes, des Juifs d'Éthiopie. C'est un petit... Ça, alors ça, par exemple, tu vois, c'est vraiment comme la Seoudat Yitro.
C'est exact.
C'est-à-dire que Seoudat Yitro, c'est un truc des Tunisiens parce qu'il est arrivé un truc en Tunisie. À Sigd, c'est vraiment une fête juive du Minak des Juifs d'Éthiopie. Par rapport à ce qui leur est arrivé à eux en Éthiopie. Alors, ça ne s'est pas encore propagé dans tout le peuple juif, mais pourquoi pas? De la même façon qu'aujourd'hui, Yitro est en train de grandir, ben pourquoi pas? C'est-à-dire? Mais donc, non, ce qui se passe à Soukhot chez les nations, c'est par rapport à Soukhot, qui est la fête aussi pour toutes les nations, on fait des corbanotes pour toutes les nations, donc c'est le but. Mais ce n'est pas forcément le truc des Bnei Noach. Ok, alors on a fini le déluge. La question maintenant, c'est donc, j'aimerais récapituler, combien de temps a duré le déluge? Eh bien, le déluge a duré, on a dit,
un an.
À quel âge?
Oui. À l'époque, on savait les noms des mois.
Non, les noms des mois, c'est Rashi qui nous les donne, c'est beaucoup plus tard. À l'époque, on appelle ça le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois.
Tu parles de Sivan.
Oui, évidemment. J'ai dit, ça c'est nous, aujourd'hui.
Ah, d'accord.
À l'époque, ils appellent ça le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Maintenant, le déluge a duré donc un an. Quel âge avait Noah au moment où le déluge a commencé? Oui, on l'a évoqué. On a dit il avait 600 ans.
Oula.
Oui.
Il a vécu 900 ans.
Alors justement, parce qu'on va nous dire, et là je fais exprès donc de sauter plein de lignes, on va nous dire que Noah, alors, où est-ce que c'est? Petite seconde, ne me pressez pas, ne mettez pas la pression. Non, c'est juste avant ça, je dis n'importe quoi, moi.
Toute la vie de Noah a été
950. Ouais, où c'est
950 ans.
Non, mais d'accord, mais le chapitre.
Fin du chapitre 9.
Très bien, voilà. Alors, regardez, fin du chapitre 9, verset 28. Vayechi Noah achar amaboul. Il a vécu après le déluge, encore. Shlosh meot shana vechamishim shana. Donc 350 ans après le déluge. Donc à quel âge il doit mourir?
951.
Il a commencé le déluge, il avait 600 ans. Un an de déluge. Il vit 350 ans après. Et sauf que juste après, il y a marqué « Veyi kol yeme noar techa meot shana vechamishim shana vayamot ».
Ils mettent 950 seulement.
Ah ben ils sont pas gênés. Il manque un an. Donc combien de temps a duré le déluge? Vous vous rappelez qu'on a dit que Noah, au bout de 40 jours, il a ouvert la fenêtre? Et on a dit, c'est bizarre, 40 jours, il y avait 300, il y avait des trucs. Eh bien, les amis, attention, tenez-vous bien. Le temps n'est pas passé pareil à l'extérieur de la Teva, de l'Arche, et à l'intérieur de l'Arche. Je ne vais pas rentrer maintenant dans une explication einsteinienne de la perception du temps, quoique on pourrait, On sait très bien aujourd'hui, grâce à Einstein, que le temps est fonction de la masse, est fonction des conditions extérieures qui vont faire que. Donc la dimension de temps n'est pas linéaire. Mais là, c'est pas de la science, c'est la Torah. Donc la Torah, elle va nous expliquer la chose suivante. Nachon, à l'extérieur de la Teva, s'est écoulé un cycle naturel. Or, un cycle naturel, c'est un an. La révolution de la Terre, c'est le cycle de la nature, c'est un an. Il s'est passé un an à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Noach reçoit la Torah. Combien de temps ça met pour recevoir la Torah ? Ben, on sait, Moshe.
40 jours.
Donc Noach, à l'intérieur, il reçoit la Torah. 40 jours, 40 nuits. À l'extérieur, il s'est passé un an. Si tu prends Noach à la sortie de l'arche et que tu lui fais un test génétique pour voir de combien de temps ont vieilli ses cellules,
40 jours.
40 jours. Ok ? Comment c'est possible ? Bah, c'est un miracle, on s'en fiche, on a déjà dit que le virus c'est un miracle.
C'est la science-fiction finalement.
C'est, la science est beaucoup plus science que fiction. C'est-à-dire ? Donc voilà, il y a une double réalité. Il y a la réalité de l'extérieur et la réalité de l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir sortir. Et là, ça ne va pas être facile. Vaidaber Elohim el Noach lemor. Tse minateva. Franchement. Tu as besoin de lui dire ? Tu es resté confiné, en confinement. Vous connaissez, truc théorique, le confinement, bien sûr. Le confinement, si on te dit, le confinement est terminé.
Tu sors.
Est-ce qu'on a besoin de te dire, alors
non.
Sors.
Non.
Ben non, tu sors. Sauf si tu es mieux dedans que dehors. Quand tu es mieux dedans que dehors, ben, tu veux rester. Combien de fois, je m'adresse à vous, combien de fois vous avez dit à vos enfants lorsqu'ils étaient à l'âge de l'adolescent poussé, c'est-à-dire 15, 16 ans, et que leur chambre était infestée d'une odeur intéressante, et que ça faisait peut-être 3 jours qu'ils n'avaient pas ouvert les volets, ni la fenêtre, ni quoi que ce soit. Toi, tu dis, j'ai pas laissé faire ça chez moi, ça va pas ou quoi ? C'est jamais arrivé.
Non.
Hein, non ? Jamais les adolescents ne s'enferment dans des endroits, ils sont très bien dedans, il faudrait pas m'embêter. Ben là, Noach, faut lui dire de sortir. Faut lui dire de sortir. Ben tu m'étonnes, à 600 ans. Mais non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il a peur. Bien sûr qu'il a peur. Mais évidemment, pourquoi tu veux qu'il sorte ?
Comme quand il est adulte, qu'il est lié dedans.
Nahon, exactement. Exactement. Donc on est obligé de l'ordonner. C'est Minateva. Ata, Veishtecha. Ubanecha, Unchebanecha Itach. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ata, Veishtecha. Alors qu'avant, il y avait marqué, quand il est rentré, il y avait marqué Ata Ubanecha. C'est-à-dire que quand il est rentré dans la Teva, c'était lui, ses enfants, et sa femme et les femmes de ses enfants. On a séparé les couples. Parce que dans l'arche, on ne peut pas avoir de relation intime. Le monde est en train d'être détruit, tu ne vas pas commencer à toi faire des bébés. Pas dans la Teva. Mais là, quand il faut sortir, la première chose que Dieu lui dit, c'est on reforme les couples. La vie doit reprendre. Donc toi et ta femme, et tes enfants et leurs femmes. OK. Kol ha'chaya asher itecha mikol basar ba'of ubabehema umikol ubechol aremes aromes ala aretz hayetze itach veshartzu ba'aretz uparu veravu ala aretz vayetze noach ubanav veishto neshebanav ito kol ha'chaya kol aremes kol ha'of kol aromes ala aretz mishpechotehem yatzu min ha'teva. Tous les animaux sortent selon leur famille. Il y a la famille de Monsieur Chien, il y a la famille de Madame Vache. C'est-à-dire quoi ? Les animaux, ils ont des familles maintenant ? C'est comme ça qu'on les détermine ? Parce que c'est ça le projet maintenant de l'après-déluge. Retrouver la dimension des familles. Voilà le projet. C'est un projet qui sera repris par Abraham plus tard. D'accord ? ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח.
Il y avait plus que des pères, hein?
C'est-à-dire?
Il fait des corbanotes.
Ben, tu te rappelles, les behemotes théorotes, combien il en avait pris? 7 et 7.
Oui.
C'est pour ça. C'est pour pouvoir faire les corbanotes. Vayara Hashem et. Regarde, qui c'est qui lui a dit sur un corban? D'où il a appris qu'on faisait des corbanos?
Ça souffle, il est dur, il y a du vent.
Mais c'est pas comme ça, c'est, tu le sens pas, tu ne fais que l'entendre.
Mais j'aime pas.
Mais j'aime pas, c'est l'hiver. En hiver, moi je vais à Dubaï. Non, toi.
Ah oui.
Comme ça, il fait pas froid. Mais Kitsour, pourquoi d'où il a appris qu'on faisait des corbanotes? Mais les amis, depuis que l'homme est homme, il fait des sacrifices. On avait vu avec Caïn et Evel déjà. Donc la dimension de rendre à Dieu, c'est quelque chose de premier dans l'idée humaine. C'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé. L'homme a ressenti cela dès ses premiers âges. D'accord? Donc, Vayven Misbeach, Vayara Hashem et Reach Lecha Nichoach, Vayomer Hashem El Libo, Lo Sif Lekalel Od et Adama, Baavur Adam, Ki Yetzer Lev Adam, Ra Mine Urav, Lo Sif Od Lakot et Kolchai, Kasher Asiti. Maintenant que Dieu il a senti l'odeur des Korbanot, il a dit, non, c'est très bien, au contraire. Et donc, je ne ferai plus ce que je viens de faire. Il ne faut pas que je m'en prenne à l'homme comme ça, ni à la création tout entière. Pourquoi ? Comme vous le savez, on l'a déjà évoqué plein de fois, l'homme, c'est une création avec deux pôles. C'est un gémeau. Il est d'un côté Yetzer Atov et d'un autre côté Yetzer Hara. Le Yetzer Atov, il le reçoit à la bar mitzvah, bat mitzvah, et le Yetzer Hara, il le reçoit à la naissance. Mais le Yetzer Hara n'est pas le mal. Bien sûr que non. Le Yetzer Hara, c'est l'inverse du Yetzer Atov. Or, le Yetzer Atov, il rentre à 12-13 ans, on a dit, parce que c'est l'âge de la puberté. C'est pas parce que l'homme, tout d'un coup, il est intelligent à 13 ans, il était déjà intelligent à 10. Mais c'est l'âge moyen de la puberté. C'est-à-dire que c'est l'âge moyen où l'homme peut commencer à donner la vie. C'est pour ça qu'on fait la bar mitzvah à 13 ans. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le Yetzer Atov, c'est la volonté de donner la vie. Le Yetzer Hara, c'est donc la volonté de profiter et de recevoir la vie. C'est pas mal. Il faut juste l'aiguiller. Donc l'homme qui voulait profiter avant le déluge, qui volait parce qu'il n'avait d'intérêt que son propre intérêt, alors ça a amené à des choses terribles. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créé avec ce Yetzer-là. Donc le but du jeu, c'est de le préparer à savoir utiliser cette force-là de vouloir se remplir de vitalité. Si on n'a pas de Yetzer-là, on meurt. Donc c'est la raison pour laquelle, d'après le judaïsme, pendant les premières années de l'enfant, tu n'es pas tenu de lui apprendre la Torah. Tu le fais, mais tu n'es pas obligé. Jusqu'à ses 13 ans, tu ne dois pas obligatoirement lui enseigner la Torah. Alors on le fait, mais c'est pas obligé. Par contre, qu'est-ce qui est obligé de lui enseigner ? Derech Eretz Shekadma, la Torah. Pourquoi est-ce qu'on t'a pas obligé de lui faire de lui enseigner la Torah et donc qu'il fasse la Torah avant 13 ans ? Parce qu'avant 13 ans, tu dois lui apprendre à contrôler son Yetzer Hara. Pour qu'une fois que tu lui enseignes la Torah, il sache l'utiliser à bon escient. D'accord ? Donc, jusqu'à 13 ans, on apprend à un enfant à être un mensch. Comme on dit en arabe.
Israël, c'est pas tellement.
Quoi ?
Israël,
c'est pas tellement. Ah, non, c'est pas forcément. Tu dis, il y a certaines personnes qui se sont trompées dans l'ordre. Bon, bah, ils sont trompés, qu'est-ce que je te dis ? Ça a l'air ? עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. Dieu dit, je ne ferai plus en sorte que les saisons soient complètement balagan. Parce que c'est, pourquoi c'est important ? Les saisons, hein ? C'est des repères. Nachon. Est-ce que c'est simplement des repères météorologiques ?
Non, c'est des repères pour le cycle
de la nature. Mais ça, j'en ai pas besoin moi. Non, c'est-à-dire, si tout d'un coup, l'été, ça devient l'hiver, bon ben très bien, alors je changerai l'agriculture. Mais c'est un repère aussi moral. Parce que le printemps, c'est le moment où tout renaît. Donc ça veut dire que voir le printemps, ça me permet de comprendre qu'il y a une renaissance. L'automne, c'est le moment où tout meurt. Donc comprendre que la mort fait partie du cycle, mais que ce n'est pas la fin de l'histoire, puisqu'arrive l'hiver. Et pendant l'hiver, bah, tout est invisible. Mais je sais que ça va ressortir. Donc il y a aussi une dimension de comprendre qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut arriver à l'été où tout est éclatant, tout est resplendissant. Ok ? Donc c'est très important aussi pour l'homme au niveau moral d'avoir ces repères-là. Va'yvarech Elohim et Noach ve'et banav va'yomer lahem. Ah, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? Bah oui, repeupler. Prou ou vous, au milou et à Aretz. Vous vous rappelez qu'on avait dit le problème qui a amené le déluge, c'est Vayer qui est Echel à Adam, c'est la Rov Alpene à Adama. Il n'y avait pas la notion de Prou, il n'y avait que Revu, la notion de quantité et non plus de qualité. Et donc ici, on te dit Perou pour vous. Milou et Aretz. ומורא אחים וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים ובכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתן. Vous avez maintenant la domination sur le règne animal. Jusqu'à présent, vous étiez les égaux des animaux. Maintenant, vous avez la domination du règne animal. Pourquoi ? Nous dit le Ramban, parce que Noach les a sauvés. Donc maintenant, non seulement il les domine, mais ils lui doivent un tribut. Et c'est pourquoi l'homme va être autorisé à manger de la viande. Nous dit le Rambam, non, c'est pour calmer les ardeurs de l'homme. Et comme l'homme il a envie de verser le sang, on préfère qu'il verse le sang d'un animal et pas le sang d'un homme.
Ça peut lui donner le goût de...
De quoi ? De verser le sang de... Oui. Il oui. Faudrait faire un sondage, une étude pour voir est-ce que les meurtriers sont débouchés en général. Je ne suis pas certain. Pardon ?
Je dis qu'il y a quand même des guerres après, quoi. Ça
n'a pas calmé les. Ah, tu dis, ça n'a pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi. C'est pas faux. Mais qu'est-ce qui se serait passé si ? Si on n'avait pas ? J'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Je vois juste une chose, c'est que par exemple, ça c'est. Alors je vais prendre position ici sur Internet et peut-être que. Je me ferai fusiller dans les commentaires. Mais je me rends compte que c'est plus tellement à la mode à cause du corona, mais avant le corona, il y avait une grande mode en France, en Europe, des organisations, tu sais, des OGN contre l'abattage, contre la boucherie, machin. Il y a eu plein de commerces qui ont été vandalisés, qui ont été attaqués, machin. Les fameux anti-viande, anti je sais pas quoi, machin. Ça, il y a plein d'organisations comme ça. Je me rends compte que bah, les bouchers, ils sont pas violents. Ils vont pas attaquer les magasins de je sais pas, de pâtes. Et je me rends compte que les gens qui sont les véganes exacerbés, ils sont très violents. Peut-être parce qu'ils mangent pas assez de viande. J'en sais rien. Je pose la question.
La première association de protection des animaux était en Allemagne au temps des nazis.
Ah bah ils étaient très 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 protecteurs, hein, effectivement. Bon, tu vois bien. Donc Bikitsour, nous avons maintenant la domination du règne animal. Peut-être aussi pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas un animal. On n'est pas au même niveau. Il faut s'élever. C'est bien. Kol remes asher uchai lachem yeh leochla ke yerek esev natati lachem et kol ach basar benafsho damo lo tochelu. Voilà. On nous permet de manger de la viande, donc on va nous donner la septième des lois de Noach, à savoir, tu n'as pas le droit de manger d'un animal encore vivant. Pas le droit de manger un animal vivant.
Comment on peut manger un animal vivant ?
Ben, comme on faisait en France jusqu'au début du XXe siècle.
Direct.
Mais non, mais pas je mords un morceau de viande. Mais évidemment, comment ils faisaient à l'époque ? Il n'y avait pas de frigo. Donc quand les paysans ils voulaient se faire un jambon, ils tuaient pas la bête. Comment je vais garder tout ? Donc je lui coupe la jambe, je recous. Il vit encore le cochon. Bah t'étais pas très producteur de jambon toi à l'époque, je vois. Mais c'est ce qui se faisait. Maman, c'est comme ça que ça marchait. Vous croyez quoi ? C'est quoi, il puait le cochon?
Je comprends pas ce que tu dis.
Mais un cochon.
Il tue une jambe et...
Mais t'as pas compris. Le mec, je te parle... Le mec, il a sa ferme. D'accord? Il a sa ferme. Mais s'il tue la bête, il va devoir tout manger ou jeter. On est en été. Comment je vais manger toute la bête? C'est beaucoup. On est quatre.
Mais tu peux,
d'accord, mais il y a un limite, il y a une limite à, pour garder tout ça. Je veux dire, tu peux pas garder indéfiniment une viande salée. Et puis d'abord le sel, c'était très cher. Donc
les salaisons.
Oui, mais d'abord il faut pouvoir saler. Donc tu peux pas saler tout le temps. Ça coûte très cher. C'est pas aussi évident à trouver qu'on a aujourd'hui. Donc les amis, comment on faisait avec les moyens du bord? Bah, c'est quelque chose qui était très courant. Je veux dire, faut pas s'exciter. Hein. Ça existait. Tu lui prends une jambe, ensuite tu la recouds, tu appelles Daniel, il te fait un petit truc, tu l'emmènes chez le véto, et directement c'est coupé. Bah, il souffre l'animal, mais c'est comme ça. Et puis après, bah, au bout de 2 semaines, tu veux te refaire une jambe, et puis à un moment donné, tu vas tuer l'animal. Voilà, saute. Donc là, on te dit, non, tu ne feras pas ça, toi. L'humain ne doit pas faire ça. On voit que ça n'a pas été respecté hein, dans les générations. Mais ça, c'est la 7e loi des Béné Noirs. Alors, c'est quoi les autres lois? Pourquoi est-ce qu'elles n'apparaissent pas ici? Elles n'apparaissent pas ici parce qu'elles ont déjà été données à Adam. On les appelle les lois des Béné Noirs. Mais en fait, la seule qui est des Béné Noirs, c'est Ever Minachai. Puisque avant, on ne mangeait pas de viande. Donc les autres, elles étaient déjà présentes. C'est-à-dire, c'était quoi? Alors, faire des tribunaux, tu as raison.
Faire
des tribunaux, juger en fait les autres lois.
Le vol, le meurtre.
Alors, le vol, le meurtre, Avodazara.
Ne pas manger de la viande.
Alors, non, pas manger de la viande, non, c'est ne pas manger d'un animal vivant.
Les tribunaux.
Alors, on a dit déjà.
Et ne pas dire. Ne pas blasphémer.
Alors, voilà, Birkat Hashem.
Voilà.
Birkat Hashem, c'est-à-dire reconnaître Dieu.
Les relations
et les relations interdites, l'incestueuse.
Ouais.
Ok? Ça, c'est les lois qui sont pour tout le monde, pas que pour les juifs. Ça marche? C'est vrai? La première fois que ma femme, elle m'a donné, en bonne anglaise, de la gelée à manger. Je lui ai dit qu'on n'a pas le droit, Mishum Ever Minachai. C'est encore vivant, le truc. L'assiette, elle bouge.
Hein, c'est bien ébrouillé.
Hein, c'est comme quand mon père il fait de la galérette.
Ben, c'est pareil.
Hein, ça bouge. Moi je peux pas manger ça, moi c'est pas possible. Hein, ben oui, je sais. Il paraît qu'on apprécie la galérette que quand les cheveux commencent à blanchir.
Non, j'aimais quoi? Bien la
galérette
tout de suite.
Sérieux? Moi j'arrive pas.
Et c'est quoi ça?
Alors, voilà. Ah voilà. Hein? Si je te disais que c'était du pied de veau en gelée.
Oh.
C'est délicieux.
C'est bien que tu mets des pieds
bon,
dans la
caille là. Hein. Ouais, c'est pareil, non.
Ouais, ouais, parce que quand c'est vert, c'est mieux.
C'est pas la couleur de la caille là, c'est pas mieux.
Non. אַר בשר בדמו בנפשו דמו לא תאכלו. ואַר את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה ידרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. Dieu nous dit, je ne laisserai pas passer un animal qui tue un homme. Donc, vous avez la responsabilité maintenant des animaux, mais moi, s'il y a un animal qui tue un homme, je m'en occupe. Ok, je ne laisserai pas passer ça, et vous n'avez pas le droit de laisser passer un homme qui tue un homme. C'est un chidouche. Avant, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais là, c'est un grand chidouche. Ok? Chauffeur d'âme à Adam, be Adam d'amo yishafer, qui betzelem Elohim asa et à Adam. Le meurtre n'est pas toléré. Pourquoi? Parce qu'il est Betzelem Elohim. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Et donc, en fait, quand tu tues un homme, tu t'en prends directement aussi à Dieu. Ve'atem, peru'uvu, shirtzu, ba'aretz, urvu va. Prenez possession maintenant de la terre. Ve'yomer Elohim el noar vel bana vito le mor, ve'ani neni mekim et beriti itrem. Nous allons faire maintenant une alliance. C'est la fameuse alliance d'Akadosh Baruch Hu. Inè, vous la connaissez. Et kol nefesh chaya asher itechem be'ofo ba'behema u bechol chayat ha'aretz itechem mikol yotzei ha'teva lechol chayat ha'aretz. Ve'akimoti et beriti, c'est quoi cette alliance? Itechem ve'lo yikaret kol basar od mimei ha'mavul ve'lo yeh od ha'mavul leshachet ha'aretz. Donc c'est quoi? Il n'y aura plus de maboul sur toute la terre. Il n'y aura plus le maboul tel qu'on l'a vécu. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y aura un endroit qui sera pas détruit? Si, il y a un endroit qui peut être détruit, Sdom va à Mora. Mais c'est pas surtout la zone de la planète qui est touchée. Vayomer Elohim zot ot haberit, asher ani noten beni ubenechem, uben kol nefesh chaya, asher itechem, ledorot olam. C'est quoi? Et kashti, natati be'anan, vaita leot brit beni uben haaretz. C'est donc l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel devient l'alliance entre Dieu et l'homme. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, 13e siècle, 12e siècle, vient et nous dit la chose suivante. Non, 13e siècle. 13e siècle. Nous dit la chose suivante. Ahem, ahem. L'arc-en-ciel n'est-il pas une réaction purement chimique, physique, ouais, pas chimique, mais physique plus, de la condensation de l'eau dans l'air et machin, et la lumière, et la réfraction de la lumière? Bon, ils n'utilisent pas les termes de réfraction, mais ils disent, mais c'est une réaction naturelle du monde. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge, quand il y avait la pluie? Ils disent, il y avait. Donc nous dit le Ramban, Nahon, l'arc-en-ciel, c'est bien mettre une réaction physique. Mais avant ça, ce n'est que une réaction physique. Aujourd'hui, c'est une réaction physique qui doit nous remettre en question également. À quoi ressemble l'arc-en-ciel? À un arc qui serait prêt à tirer vers le ciel. C'est Dieu qui s'auto met sa flèche vers lui, disant... Alors, pas qu'on n'a pas le droit. C'est que quand tu vois un arc-en-ciel, tu ne viens pas dire aux autres, ah, regardez un arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que c'est un signe négatif. Par contre, tu dois faire une bracha. Tu fais une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Quoi? Zocher Abrit. Bon, il y a tout un noussar très long qui termine en disant Zocher Abrit. Tu te souviens de l'alliance que tu as passée avec Noah. D'accord? Donc, mais moi je veux m'arrêter deux secondes. Il aurait pu choisir n'importe quoi, Dieu. Pourquoi ça?
C'est prévisible.
Alors c'est prévisible, on ne peut pas le rater. Et puis pourquoi l'avoir fait aussi beau?
Oui, ce que j'allais te dire, c'est magnifique.
Hein, c'est magnifique un arc-en-ciel. Oui, mais c'est quoi un arc-en-ciel? Quand on y réfléchit, c'est toutes les couleurs. Alors c'est à cause de. Je ne parle pas au niveau physique. Je parle au niveau concret. Je vois quoi moi?
Les couleurs.
Je vois les couleurs. Mais elles étaient là, elles étaient présentes les couleurs avant ou pas? Oui. Seulement elles étaient unies. Pourquoi est-ce que je ne vois pas l'arc-en-ciel tous les jours quand il y a le soleil? Parce que la lumière du soleil, c'est la lumière blanche, on l'appelle la lumière blanche, elle est faite de toutes les couleurs, mais quand elles sont unies, oui, ça fait la lumière blanche. Donc si tu vois un arc-en-ciel, tu vois quoi?
Plusieurs couleurs.
Donc ça veut dire que les choses ne sont pas unies, le monde n'est pas uni. C'est magnifique. Nahon? Mais c'est également très dangereux. La séparation est quelque chose qui doit nous mettre en alerte. L'arc-en-ciel vient nous dire le monde n'est pas encore Echad.
Tu veux dire que le jour où le monde va être Echad, il n'y aura plus cet arc-en-ciel. Il n'y aura qu'une seule couleur. Il n'y aura que le noir, par exemple.
Pour le noir.
Le blanc. Toutes les couleurs mélangées.
Le blanc.
Le blanc.
Le blanc. Le blanc qui fait le blanc. Je préfère le blanc que le noir.
Oui, moi aussi. Mais il y aura toutes les couleurs sont mélangées. Alors.
L'unité.
L'unité, c'est ennuyeux, mais l'unité. La différence est beaucoup mieux.
Oui, mais ça, c'est tu sais, quand est-ce que tu fais la différence? Quand tu rentres dedans. Quand tu prends ton prisme. Et là, tu vois la différence. Tu arrives à voir à l'intérieur de l'unité les gvanim. Mais ça, c'est quand tu es conscient qu'il y a une unité. Lorsqu'elles sont complètement séparées, elles sont que séparées. Et c'est là qu'il y a danger. Donc, et kashin atati be'anan, premier Elohim zot tot haberit, asher ani noten beni ubenechem, v'chol nefesh chaya, asher itechem, l'dorot olam, et kashin atati be'anan, v'hayta le'ot berit beni uben haaretz, v'haya be'anani anan al haaretz, v'nirata keshet be'anan, v'zacharti et beriti asher beni ubenechem, uben kol nefesh chaya, v'chol basar, v'lo yeh od amayim lemabul l'shachet kol basar. והייתה קשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם ביני, בין אלוהים סליחה ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. Donc, maintenant, on peut conclure l'histoire du déluge. Yomer Elohim El Noach, Zot Otaberit, Asher Akimoti, Beni, Uben Kol Basar, Asher Ala Aretz. Zéo. Le déluge est donc terminé. Maintenant, vous avez peut-être connu, je dis peut-être en sachant que oui, des gens qui ont survécu à la Shoah. Est-ce qu'ils sont dans l'après-Shoah en mode « tout va bien, Madame la Marquise » ou est-ce qu'il y a un traumatisme post-Shoah ?
Il y a les deux.
Évidemment.
Il y a les deux.
Tu connais beaucoup de gens qui, après la Shoah, c'était tout va bien, Madame la Marquise ?
Pas tout bien, mais qui en sont sortis avec une.
Ça, c'est possible. Il y a des gens qui ont été renforcés dans leur Emouna. Voilà. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas des grands problèmes émotionnels ?
Évidemment.
C'est-à-dire, quand tu vis un traumatisme d'une telle ampleur,
mais
c'est évident.
Mais sur la génération d'après
aussi. Il revient aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu sors d'un tel événement. Tu ne peux pas tirer un trait. La vie d'après, elle est nécessairement imbriquée avec l'événement. C'est tout à fait normal. Donc, si c'est vrai pour la Shoah, hein,
c'est vrai aussi pour le.
Bah, t'imagines. Je veux dire, bon, la Shoah, c'est terrible, mais le déluge, c'est pire.
Il n'y avait pas de survivants.
Bah, quoi ?
Il n'y avait pas de survivants.
La fille, à Noir ?
Oui, en dehors de.
Ah, mais il n'y a rien à mettre, donc c'est pire.
C'est un choc, bien sûr.
Pour Noir, c'est une Shoah plus.
Bien sûr.
Donc, tu t'imagines bien que lui aussi, il a vécu un traumatisme terrible. Donc, bah regardez comment ça suit. Vayi bene Noah hayotzi min ha-teva Hashem cham ve-yefed, ve-cham hu avik na'an. Shlosha ele bene Noah, ou me-ele nafza kol ha-aretz. Vayachel Noah isha adama vayita karen. La première chose qu'il fait, c'est quoi ? De planter une vigne. Une vigne.
Une vigne.
Hein ? Oui, non, il a fait le misbéar. Ouais. Ça, c'est normal. Ça, c'est, si tu veux, on vient de te libérer des camps. La première chose, tu dis merci au libérateur et on saute dans les bras des GI et on saute dans les bras des soldats américains et ils nous donnent leur sac de nourriture et on se jette sur la nourriture et on en meurt parce qu'on n'a plus l'estomac qui est fait pour manger. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie de immédiatement après la libération. Mais ça y est, maintenant, on est après la libération et on se rend compte de ce qui a été perdu. Et donc, Vaïta Karem. Et alors, Vayesht Minayain, Vaishkar, Vaidgal Betor à Ol. Il s'est.
Ignoré.
Pourquoi il a fait ça ?
Tu venais de planter la vigne, comment il a fait du mal déjà ?
On t'a pas dit que ça s'est fait en deux secondes. Vaïta Karem, après on te dit, il a bu, il a.
Je peux oublier.
On sait bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le buveur dans Le Petit Prince ? Lorsque le Petit Prince lui demande, mais enfin, pourquoi tu bois ?
Pour oublier.
Il dit, pour oublier. Il dit quoi ? Que t'as honte, que j'ai honte. Mais tu as honte de quoi ? Que je bois. Ben voilà. Noir boit pour oublier. On est, c'est terrible, hein, je veux dire, on n'y réfléchit pas assez. C'est pas, il a fait une soirée, il veut oublier le monde d'avant. C'est-à-dire, en fait, toute la question est de savoir comment, après le déluge, on peut reconstruire un monde d'après. Eh bien, ça, les amis, c'est ce qu'on verra. La prochaine fois. Alors, la semaine.